Voilà, chers amis auditeurs, auditrices de Radio Maria France, comme annoncé, on retrouve tout de suite Françoise Brenard pour cette émission sur l'Évangile, l'Évangile selon Saint Jean. Françoise Brenard, bonsoir, bienvenue sur Radio Maria France.
Bonsoir Jérôme. Aujourd'hui, nous allons voir les chapitres de l'Évangile selon Saint Jean, 13, 14, 15 et 16, ou discours après la scène, qui forme ainsi un collier qui va faire 6 perles. Il s'agit d'une méditation très profonde, adaptée aussi pour une retraite. Nous allons prendre une perle à la fois et puis ensuite la cohérence d'ensemble et, surprise, un parallèle avec la liturgie de Saint-Jacques. Alors, première perle, Jean chapitre 13. Avant donc la fête de la Pâque, Jésus savait que l'heure était arrivée pour qu'il se retire de ce monde auprès de son Père. Et il brûla d'amour pour les siens de ce monde, et jusqu'à la fin, il brûla d'amour pour eux. C'est un amour de volonté, Jésus va se consumer. Et tandis que c'était le souper, Satan jetait dans le cœur de Judas, fils de Simon l'Iscariote, la détermination de le livrer. Lui donc, Jésus, parce qu'il savait que toute chose le Père le lui avait donnée en main propre, et que de Dieu il était sorti, et qu'auprès de Dieu il s'en allait. Vous voyez, cette ouverture est solennelle. Jésus sait que Dieu a tout remis entre ses mains. Et de cette puissance, il fait un usage extraordinaire. Il commença à laver les pieds de ses disciples. Il exerce un pouvoir qui n'écrase pas, mais qui libère et élève. C'est l'inverse du péché originel. Jésus donne alors 2 grandes révélations. Amen, amen, je vous le dis. Le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous connaissez ces choses, bienheureux si vous le faites. Et voici la 2e révélation. Amen, amen, je vous le dis. Qui accueille celui que j'envoie, ou on peut traduire aussi qui accueille ce que j'envoie, on va expliquer. C'est moi qui l'accueille. Et qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. On est au verset 20 du chapitre 13. Alors si on traduit par ce que j'envoie, le verset aurait une signification eucharistique, selon laquelle, en recevant Jésus, le disciple reçoit en quelque sorte aussi le Père. Tout Dieu. Et si l'on traduit par celui que j'envoie, le verset a une signification missionnaire. Et Jésus s'associe à l'apôtre qu'il envoie. Si on accueille un apôtre, on accueille Jésus. Le récit continue avec l'annonce de la trahison de l'un des 12. Jésus surmonte son trouble. Le verbe araméen signifie à la fois être fortement troublé en son esprit ou fortifier son esprit. Jésus révèle l'identité du traître aux disciples bien-aimés. Pas à tout le monde, aux disciples bien-aimés. Sans doute parce que l'amour permet de traverser l'effroi. Ensuite, il y a l'affaire de la bouchée. Vous savez, en Orient, si l'on veut honorer un hôte, ce n'est pas habituel, mais solennel, on lui présente la bouchée d'honneur. Eh bien, l'amour que Jésus a manifesté pour le traître en lui lavant les pieds, puis en lui donnant amicalement cette bouchée, condense tout l'amour possible pour l'humanité. Il ne peut pas faire plus. Mais quand Judas prend la bouchée, Satan entre en lui. En un sens, heureusement que Satan est là pour prendre sa part de responsabilité dans cette affaire. La Bible parle à la fois de la jalousie qui conduit Caïn à tuer Abel, dans le livre de la Genèse, ou encore de la convoitise qu'il faut s'interdire, dans le livre de l'Exode, et encore de l'envie du diable. C'est par l'envie du diable que la mort est entrée dans le monde. Livre de la Sagesse, chapitre 2. Ici, on parle de Satan, le diable. La mention de Satan qui pénètre Judas explicite l'enjeu de la passion. La mort de Jésus n'est pas simplement une erreur de justice. C'est pas seulement la mort d'un martyr. C'est un jugement sur Satan. C'est une victoire sur l'emprise de Satan. Jésus s'adresse à Judas. Ce que tu fais, fais-le vite. Et en s'adressant à Judas, Jésus parle à Satan. Jésus est le maître de la situation. Il domine jusqu'à Satan, lui donne des ordres dont le temps est compté. Judas n'est pas pour autant prédestiné. Il a depuis longtemps prémédité sa trahison. Jésus demande simplement d'aller maintenant vite parce que c'est l'heure. La passion de Jésus est une victoire de l'amour brûlant, une gloire, une glorification. Quand il fut sorti, Judas, Jésus dit « Maintenant, le Fils de l'homme a été glorifié. Et Dieu a été glorifié en lui. Et si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifie en lui. Et d'un coup, il le glorifie. » Le verbe « glorifier » veut dire aussi « féliciter, louer, chanter les louanges ». Le Fils glorifie le Père. L'allusion au Fils de l'homme se réfère au jugement à venir, remis au Fils par le Père. Le Père glorifie le Fils. Et c'est Jésus, le Fils de l'homme, qui jugera le monde à la fin des temps, qui jugera d'abord l'Antichrist et la bête, comme on dit. Alors, ensuite, il n'y a pas besoin de marquer une coupure, on entend « petits enfants ». Verset 33. Jésus donne un commandement nouveau. Vous aimez les uns les autres comme je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres. Verset 34. Faut pas oublier le « comme je vous ai aimé ». Nous sommes chrétiens. Notre amour s'enracine dans l'amour de Jésus. Il s'agit d'un amour agissant et volontaire, une volonté aimante. Il y a deux verbes pour dire « amour » en araméen. Et là, c'est le verbe de racine « huba »,« hub », qui veut dire « volonté aimante ». La ressemblance « comme » met en communion les disciples et le Seigneur. Leur amour les uns pour les autres, leur volonté aimante a pour modèle et pour source l'amour ardent que Jésus manifeste dans le lavement des pieds, dans tout l'ensemble de la Passion. Allez, on continue. Deuxième perle. Jean chapitre 14, versets 1 à 14. Alors, il y a une continuité. La perle, la première, s'était achevée sur la perspective dramatique où Pierre voulait donner sa vie pour Jésus. Et Jésus l'avait mis en doute, annonçant plutôt son reniement. En termes voilés, la mort de Jésus était déjà annoncée, ce qui n'est pas une nouveauté en soi. Et cette perle-ci commence par « Que votre cœur ne s'alarme pas ». Ça s'enchaîne. Jésus va montrer que sa mort n'est pas une malédiction, ni pour lui, ni pour les disciples qui l'ont suivi. Si je m'en vais et vous prépare un lieu, je reviens de nouveau et je vous emmène auprès de moi, afin que là où moi j'existe, vous aussi, vous soyez. Extraordinaire, hein ? Afin que là où moi j'existe, vous aussi, vous soyez. En Dieu, en Dieu. Il dit aussi, je suis moi, la voix. Il n'y a pas le verbe être en fait, c'est je, moi, la voix. La vérité et la vie. Nul homme ne vient auprès de mon Père sinon par moi. Nul homme ne vient auprès de mon Père sinon par moi. Cette parole est très forte. Elle nous encourage vraiment à être des missionnaires. Cependant, les disciples ne sont pas appelés à aller tout de suite au ciel auprès du Père. Ils sont appelés à faire des œuvres. Et pour cette vie du disciple qui fait des œuvres sur la terre, Jésus va désigner dans la perle suivante l'Esprit de vérité comme un autre paraclet. Alors nous arrivons à la perle suivante, Jean 14, versets 15 à 31. Si vous éprouvez de l'amour pour moi, mes commandements, gardez-les. Ici, l'amour, c'est le verbe rechem, le verbe qui veut dire l'amour des entrailles, comme les entrailles d'une mère, les gens qui sont de la même famille, qui sont connaturels. Eh bien, si vous êtes de ma famille, mes commandements, gardez-les. C'est ça que ça veut dire. Si vous êtes mes fils, si vous êtes mes petits-enfants. Et moi, je supplierai mon Père et il vous donnera un autre paraclet, afin qu'il soit avec vous pour le siècle, l'Esprit de vérité, vérité fermeté, celui que le monde n'est pas capable de recevoir parce qu'il ne l'a pas vu et ne le connaît point. Je ne vous laisse pas orphelin. Je viens en effet auprès de vous dans un peu de temps. Jésus, refusé, va repartir. Que Jésus s'en aille à cause du refus des pécheurs, on comprend. Mais les autres vont continuer le foyer d'amour. Et dans la mesure où ils garderont les commandements, Jésus leur promet le paraclet, l'Esprit Saint, l'avocat, le défenseur. Il est paraclet en tant qu'il est esprit de vérité. Celui qui déjoue les pièges, les tentations de l'accusateur, Satan. Jésus dit que le monde n'est pas capable de le recevoir. Attention à cette parole, elle est grave. Jésus ne nous encourage pas du tout à faire confiance comme ça au monde en général. Il nous dit bien que le monde n'est pas capable de recevoir l'Esprit de vérité. Ailleurs, il parle du prince de ce monde, qui est menteur, homicide. On ne peut pas faire toutes les alliances. Le monde sait collaborer avec l'Esprit. Le disciple sait collaborer avec l'Esprit Saint, mais le monde ne le sait pas. Ensuite, Jésus annonce sa prochaine venue réservée aux disciples. Et le monde ne me verra pas. Vous, en revanche, vous me verrez. Il s'agit de sa venue dans la résurrection après sa mort. Pas ici, sa venue glorieuse qui anéantira l'Antichrist et ses suppôts. Il doit en effet d'abord former son Église. Vous saurez en ce jour-là que je suis en mon Père et que vous, vous êtes en moi et que moi, je suis en vous. Les disciples ont déjà entendu l'enseignement de Jésus sur son union au Père. Mais dans le temps de l'Église, ils seront habités par la présence eucharistique et leur connaissance sera d'ordre mystique. Vous savez, de nombreux exégètes tirent de ce verset « Vous saurez en ce jour-là que je suis en mon Père » que les disciples n'avaient encore rien compris sur le moment et donc il y a des couches rédactionnelles avec des supposés développements tardifs et progressifs de la foi en la divinité du Christ, et quand les Juifs, disciples des apôtres, auraient inventé la divinité du Christ, alors les pharisiens les auraient exclus de la synagogue, c'est-à-dire dans les années 85 à 90. Mais il n'y a pas besoin d'une théorie pareille. Tout simplement, les paroles de Jésus sont parfaitement audibles par les disciples la veille de la Passion. Jésus leur parle d'une union au Père dont ils perçoivent la réalité, mais sans savoir encore ce qu'elle est exactement. Et puis, pour le moment, ils ont d'autres soucis en tête, comme l'opposition des grands prêtres, le danger imminent. Après la résurrection, dans le temps de l'Église, ils auront reçu l'Esprit Saint. Ils pourront être habités et leur connaissance sera d'un autre ordre, mystique et eucharistique. Alors le verset suivant, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Or celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et je l'aimerai, et je me manifesterai à lui. » Alors, on a les deux verbes aimer. On a d'abord le verbe aimer, amour de volonté. La volonté aimante et fidèle du disciple le conduit à la communion avec le Père et le Fils qui l'aimeront. Dans la tendresse et la miséricorde, là, on a la racine rechem, l'autre verbe aimer. Les deux verbes se complètent. Or, ils sont trois, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Le paraclet est donné par le Père, c'est une personne divine. Ce paraclet-là, donc, l'Esprit de sainteté, celui que mon Père envoie en mon nom, lui vous enseignera toutes choses et lui vous remémorera tout ce que je vous dis. Voilà, alors en termes voilés, Jésus annonce sa mort et sa résurrection. Sans l'annoncer de manière crue, Jésus prépare ses apôtres à sa passion et en éclaire le sens. Il faut que le monde reconnaisse que j'aime le Père. La paix que Jésus donne, c'est sa propre paix. Vous savez, le mot shlama. La paix profonde, celle qui vient de sa vie dans la divine volonté. J'aime le Père et je fais comme le Père m'a commandé. Et puis, cette perle termine par « Mettez-vous debout, allons-nous-en d'ici ». Et puis, juste après, on a un autre discours, la vigne et les sarments. Alors, certains exégètes imaginent qu'il s'agit de se lever pour aller à Gethsémani. Et alors, on va même penser que donc les chapitres d'après sont plus tardifs, etc. Mais en fait, ça veut dire quelque chose de tout simple. Dans le repas du céder juif, comme aussi dans les grands repas de fête, on débarrasse la table, ou bien on quitte la table du repas copieux, avant de manger le dessert, ce qu'on appelle les afikoumènes, des petites douceurs avec beaucoup de miel, beaucoup de sucreries orientales. Donc tout simplement, mettez-vous debout, allons-nous-en d'ici, ça veut dire on va changer de place, on va changer de registre, bien sûr, puisqu'on va passer au Saint-Mystère, à l'institution de l'Eucharistie, que Jean ne raconte pas, et vous savez pourquoi ceux qui ont écouté ma deuxième émission, parce que Pierre et Jean ont commencé leur enseignement ensemble, sous les colonnades de Salomon, très tôt, donc au mois d'octobre, juste après l'année de la Passion de Jésus. Et donc, ils ont raconté les choses en alternance. Jean racontait le lavement des pieds, Pierre racontait l'institution de l'Eucharistie. Donc, ils ne se sont pas répétés. Voyons la perle suivante. Jésus commence par donner une image. « Je suis, moi, la vigne en vérité, et mon Père est, lui, le cultivateur. Tout sarment qui, en moi, ne donne pas de fruits, il l'enlève. Et celui qui donne des fruits, il le purifie, afin que de nombreux fruits il produise. » Cette belle image est très profonde. Elle évoque l'incarnation, le Fils qui est planté dans la terre, comme une vigne. Mais elle évoque aussi le mystère de la mort et de la résurrection, puisque la vigne est taillée pour porter davantage de fruits. Tout sarment qui porte du fruit, le Père l'émonde, il le taille. Il s'agit de la purification des disciples. Et la lecture en collier nous fait comprendre qu'elle s'opère par le mystère de la mort et de la résurrection. L'exaltation propre à l'homme et aux institutions aussi doit être émondée. Ce qui est trop poussé doit être à nouveau ramené à la simplicité et à la pauvreté du Seigneur lui-même. C'est seulement à travers ces processus de mort que la fécondité se préserve et se renouvelle. Pierre lui-même ne manquera pas de rappeler sa propre purification. La nuit de la Passion, son tempérament sera brisé. Brisé. Il va renier le Maître, il va en pleurer. Il deviendra un autre homme que le ressuscité pourra instituer berger. Voilà. Pierre est comme un rameau, un sarment qui a été taillé, durement taillé la nuit de la Passion. Mais ensuite, il peut devenir berger. Jésus continue. « Ces choses-là, je vous en ai parlé, afin que ma joie soit en vous et que devienne parfaite votre joie. Celui-ci est mon commandement. Brûlez d'amour les uns pour les autres, de la même façon que moi, j'ai brûlé d'amour pour vous. D'amour brûlant, il n'y en a pas de plus grand que celui-ci, qu'un homme dépose son âme en échange de ses amis. Donne sa vie, hein, donne sa vie. Jésus donne sa vie par amour. La passion de Jésus est une passion d'amour. On ne peut pas comprendre la passion du Christ sans comprendre qu'elle est un don d'amour, une intercession d'amour. Vous verrez que quand un soldat transpercera son cœur, jailliront l'eau et le sang. On le verra la fois prochaine. Et le fait que de l'eau et du sang ont jailli, c'est un signe médical d'une déchirure du myocarde causée par l'angoisse, la mort d'amour. Une angoisse d'amour qui ultimement a causé la mort du Christ. La communion d'amour conduit à une communauté de destin des disciples avec Jésus, lui qui a été confronté à la haine du monde et à la persécution. Mais ils font toutes ces choses-là contre vous, à cause du nom qui est le mien et de ceux qui ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. En disant « ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé », Jésus ne donne pas une excuse facile. Il ne s'agit pas d'une simple ignorance, comme si Jésus n'avait pas parlé, comme s'il n'avait pas fait des œuvres devant leurs yeux. C'est vraiment un péché. Il répète deux fois un péché. Or, maintenant, ils ont vu, et ils ont eu de la haine, et pour moi, et pour mon Père, afin que s'accomplisse la parole qui est écrite dans leur loi. Ils m'ont haï sans raison. Il s'agit en fait du psaume 35 ou du psaume 69. Eh bien, avançons. La perle suivante, donc Jean chapitre 15, verset 26, et on va aller jusqu'au chapitre 16, verset 15. Alors, lorsque donc viendra l'Esprit Paraclet, l'Esprit Saint. Pourquoi le mot Paraclet? C'est un mot qui désigne le souffleur. Vous savez, quand on souffle à quelqu'un qui a oublié ce qu'il doit dire. Il est le souffleur qui va aider les apôtres à témoigner sans trébucher. Le Paraclet est envoyé par Jésus en rapport à son départ par la croix. « Si je pars, je vous l'enverrai. » C'est l'esprit de vérité qui, en araméen, a la nuance « l'esprit de vérité et de fermeté ». Autrement dit, c'est le Paraclet, l'esprit de vérité, qui fait tenir bon dans l'épreuve. Et c'est pour ça qu'il est donné par la croix. Le Paraclet, il y a aussi en araméen un jeu de mots sur la racine. Parak, qui veut dire sauveur, et la racine, donc LT, qui veut dire malédiction. Le Paraclet, si on fait le jeu de mots, est celui qui délivre le monde de la malédiction, de l'injustice, du mensonge de Satan. Et c'est bien ce que Jésus dit. Jésus est condamné comme un pécheur, mais Jésus promet le Paraclet. L'Esprit Saint va manifester qu'il n'est pas pécheur. Bien au contraire, il y a un péché grave à ne pas croire en lui. Jésus est crucifié par un procès injuste. L'Esprit Saint va manifester cette injustice en justifiant Jésus. Jésus va auprès de son Père. Jésus est jugé pour blasphème et sa mort en croix est interprétée par les Juifs comme une malédiction divine. Mais l'Esprit Saint est paraclet. Il va manifester le jugement divin. C'est le prince de ce monde qui est jugé. Vous voyez, il y a une cohérence dans tout l'ensemble de cette perle. L'objectif de Jésus dans sa passion est de nous libérer de l'emprise de Satan, de l'expulser. Une fois les âmes libérées de son emprise, Jésus peut les remplir de l'Esprit Saint. Bien, voyons la dernière perle. Jean chapitre 16, versets 16 à 33. Jésus achève de préparer ses disciples à la passion. Son départ sera pour eux une tristesse. Mais votre tristesse se changera en joie. En effet, vous me reverrez et votre cœur sera dans la joie. Et votre joie, nul ne vous l'enlèvera. Jésus est notre intercesseur auprès du Père. Sa passion sera une puissante intercession. Et pour le disciple qui prie au nom de Jésus, une puissance d'intercession, si je fais un jeu de mots. Amen, amen, je vous le dis, tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il vous le donnera. Alors, l'écriture en collier nous aide à trouver la source de cette puissance. C'est l'union dans le Christ de la volonté humaine à la volonté divine. Rappelez-vous, à la quatrième perle, on a entendu « De la même façon dont moi j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure, moi, dans l'ardeur de son amour. » Voilà, c'est parce qu'il est uni au Père qu'il a cette puissance, cette grande puissance et que tout ce que Jésus demande, il l'obtient. Et que donc nous, tout ce qu'on demande au nom de Jésus, on l'obtient. Et Jésus peut terminer sur ces mots. Dans le monde, ce sera pour vous l'angoisse, mais ayez du cœur. Moi, je l'ai vaincu, le monde. Voilà, nous avons terminé le collier. Maintenant, nous allons faire des méditations justement en collier. On va observer que dans tout ce collier, certaines paroles se répètent, notamment l'expression « pas capable » qui est présente dans 5 perles. Sans les décourager, Jésus a voulu avertir les siens d'une réalité humiliante. Ils ne sont pas capables tout de suite. Ils le seront plus tard. Ils ne sont pas capables tout seuls, mais ils le seront s'ils sont en Jésus. On va recommencer le collier, mais juste en prenant ce thème-là. Première perle. Comme je l'ai dit aux Juifs, où je vais, vous n'êtes pas capables de venir. À vous aussi, je le dis à présent. Et Pierre résiste, et Jésus insiste. Là où je vais, tu n'es pas capable maintenant de venir à ma suite. À la fin, néanmoins, tu viendras. Mais Simon Pierre persiste. Monseigneur, pourquoi ne suis-je pas capable de venir à ta suite maintenant? Alors Jésus lui annonce son reniement. Deuxième perle. Amen, amen, je vous le dis. Qui croit en moi, les œuvres que je fais, moi, lui aussi, il les fera. Donc plus tard, les disciples seront capables de grandes choses. Mais pour l'instant, Thomas dit, nous ne savons pas où tu vas, et comment serions-nous capables d'en connaître la voie? Troisième, Jésus promet un autre paraclet, l'esprit de vérité, celui que le monde n'est pas capable de recevoir. Quatrième, de la façon dont le sarment, donc le rameau, est incapable de donner des fruits de lui-même sinon en demeurant sur la vigne, évidemment, si on coupe la branche, elle ne peut pas donner de fruits. De la même façon, vous non plus, si vous ne demeurez en moi, parce que sans moi, vous êtes incapable de faire quoi que ce soit. La racine qui donne le mot « capable » ou « incapable » signifie aussi « trouver » ou « moissonner ». Avec Dieu, nous ne pouvons rien trouver et rien moissonner. On l'inverse, sans Dieu, nous ne pouvons rien trouver ni rien moissonner, mais avec Dieu, nous pouvons trouver et nous pouvons moissonner. Perle, alors Jésus reprend encore une dernière fois la même expression « pas capable ». J'ai encore beaucoup à vous dire, mais vous n'êtes pas capable de le saisir maintenant. Maintenant. Dans la dernière perle, Jésus annonce la joie après la peine, votre cœur se réjouira. Et le collier s'achève sur ces paroles d'encouragement, hein. Ayez du cœur, moi je l'ai vaincu, le monde. Donc, nous allons faire un lien avec quelque chose que nous avons déjà expliqué. Rappelez-vous, dans la tresse du pain de vie, ceux qui n'ont pas écouté les émissions, vous pouvez regarder sur mon site internet foi www.vivifiante.fr, j'ai mis des YouTube et on peut se retrouver. Hein. Sinon, vous achetez le livre, comme ça vous avez les schémas. Le livre s'appelle Jean, l'évangile enfilé. Alors, dans la tresse du pain de vie, Jésus disait « Amen, amen, je vous le dis, si vous ne mangez le corps du Fils de l'homme et ne buvez son sang, il n'y a point, quant à vous, la vie dans votre personne. Qui mange mon corps, en revanche, et boit mon sang, il y a pour lui la vie qui est pour toujours. » Eh bien, Jésus dit maintenant, parce que sans moi, vous êtes incapable de faire quoi que ce soit. Vous voyez qu'il y a un lien avec l'Eucharistie. Alors, puisqu'il y a un lien avec l'Eucharistie, avec le pain de vie, nous allons faire une observation incroyable. Vous savez que saint Jean ne décrit pas le rituel eucharistique. Saint Marc le fait, saint Marc c'est l'évangile de Pierre, saint Matthieu aussi, saint Luc. Saint Jean semble néanmoins transmettre le ton des futures célébrations liturgiques, l'esprit de la messe. Les disciples s'approchent de l'autel avec humilité, componction, crainte de Dieu, confiance, joie. Alors nous allons faire une comparaison avec la liturgie de saint Jacques. C'était l'ancien rite de Jérusalem, en témoignait saint Cyrille de Jérusalem. La forme originelle est en araméen. Vous savez que là, toutes mes traductions sont à partir de l'araméen, la langue de Jésus. Et cette liturgie de saint Jacques est encore la liturgie principale de l'église orientale syriaque. Alors observez, reprenons encore le collier. On commence par une purification, le lavement des pieds. Jésus dit, celui qui fait une ablution n'a besoin que de laver ses pieds. C'est tout entier en effet qu'il est pur. Vous tous aussi vous êtes purs, néanmoins non pas tous. Eh bien la liturgie de saint Jacques commence aussi par rappeler que nous entrons dans la demeure de Dieu. De l'encens est offert, comme un suave parfum pour la rémission des péchés. Afin qu'avec une conscience pure, nous puissions t'offrir des dons, dit le prêtre. Et le prêtre dit, car nous ne sommes pas capables de vaincre ce qui s'oppose à nous. On entend l'écho de l'évangile de Jean. Ensuite, au Cénacle, Jésus a dit, qui croit en moi, les œuvres que je fais, moi, lui aussi, il les fera. Eh bien, dans la divine liturgie, il est aussi question des œuvres. On prie afin que nous ne soyons pas seulement des auditeurs de chants spirituels, mais également des acteurs de bonnes choses. Il ne s'agit pas seulement d'aimer la musique. Au Cénacle, Jésus dit à Thomas, « Je suis, moi, le chemin, la vérité et la vie. » Eh bien, dans la liturgie, le prêtre dit, « Nous te rendons grâce, Seigneur notre Dieu, de nous accorder la confiance de pénétrer dans ton sanctuaire par ce nouveau et vivifiant chemin qui nous est ouvert par le voile, le chemin de la chair de ton Christ. » Cénacle, Jésus promet l'Esprit Saint et il dit, « Lui vous remémorera tout ce que je vous dis. » Eh bien, dans la liturgie, on arrive au credo. Ben, le credo, c'est de se souvenir des éléments principaux de la foi. C'est un résumé de ce que l'on doit retenir. Au Cénacle, Jésus dit, « Je vous laisse la paix, je vous donne la paix qui est la mienne. » Eh bien, justement, après le credo, la divine liturgie invite au baiser de paix. Au Cénacle, Jésus dit, « Mettez-vous debout. » Eh bien, à la fin du baiser de paix, à la messe, le diacre dit, « Tenons-nous droit, tenons-nous dans la crainte et avec un cœur contrit. » Et le prêtre dit, « Élevons nos esprits et nos cœurs. » Et le cœur, nous les élevons vers le Seigneur. Ensuite, on a l'histoire de la vigne et de ses branches, de ses rameaux. « Parce que sans moi, vous êtes incapables de faire quoi que ce soit, avait dit Jésus. » Si donc un homme ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment sec, et le ramasse, le jette au feu, afin qu'il brûle. Eh bien, il y a une phrase du célébrant. Nous faisons mémoire, Seigneur, de ta mort, de ta résurrection, de ton ascension au ciel, de ta session à la droite de Dieu le Père, de ta seconde venue dans la gloire, lorsque tu jugeras en justice la terre habitée. et que tu rétribueras chacun selon ses œuvres. » Eh bien, cette phrase évoque le moment où le sarment sec sera jeté au feu. On peut relever que l'objet du jugement sera la terre habitée, c'est-à-dire ceux qui seront sur la terre à ce moment-là. Alors, ensuite, on a une phrase un peu compliquée, Jésus au Cénacle qui dit « Et lorsqu'il sera venu, lui, le Paraclet, il blâmera le monde quant au péché et quant à la justification et quant au jugement, quant au péché car il ne croit pas en moi, quant à la justification donc, quant au jugement donc, car le prince de ce monde est jugé. » Eh bien, dans la liturgie de Saint-Jacques, on a aussi une triple prière à l'Esprit-Saint. Vous voyez, là, il y avait trois paroles sur l'Esprit-Saint. Eh bien, dans la liturgie aussi. La première prière invoque l'Esprit-Saint sur le pain, la seconde sur le vin, pour la rémission des péchés et la vie éternelle. Donc, autrement dit, eh bien, la rémission des péchés, on a parlé. Et la vie éternelle, c'est en quelque sorte en rapport avec la justification. Et la troisième prière invoque l'Esprit-Saint sur l'Assemblée et sur l'Église, afin qu'il sanctifie ceux qui en consomment et fasse qu'ils portent du fruit en bonnes œuvres, et qu'il affermisse la Sainte Église sur le roc de la foi, victorieuse des portes de l'enfer, maintenant et à jamais. Ça correspond à la troisième promesse de Jésus sur le Paraclet, en disant « car le prince de ce monde est jugé ». Le prince de ce monde, c'est Satan. Et l'Esprit-Saint en est victorieux. Ensuite, Jésus promet « C'est moi qui supplierai le Père pour vous ». Bien maintenant, dans la liturgie de Saint-Jacques, on a une longue intercession. C'est le Christ qui supplie le Père pour nous. Ensuite, on a la prière du Notre Père, et qui est introduite par une prière pleine de tendresse dans la liturgie selon Saint-Jacques. C'est absolument magnifique. « Ô Père, toi qui t'es attendri et as sanctifié ces offrandes présentées devant toi. » C'est extraordinaire, je vous laisse lire dans le livre, ce serait trop long. Eh bien justement, tout le collier que nous avons vu aujourd'hui nous parle d'une sorte de montée vers le Père. Première perle, Jésus, sachant qu'il retourne auprès du Père. Deuxième, Jésus dit « Je suis le chemin ». Troisième, Jésus dit « Je ne vous laisserai pas orphelin ». Quatrième, la vigne et les sarments, mon Père est le vigneron. Cinquième, le Paraclet vous conduira dans la vérité tout entière, donc on a encore l'idée du chemin. Et dernière, je suis sorti d'auprès du Père et je vais auprès du Père. Vous voyez, on a vraiment quelque chose de très cohérent. Jésus est le chemin sur lequel il faut marcher avec fermeté et qui mène à la vérité tout entière et vers le Père. Le Père est le juge suprême de Satan et il va nous en délivrer. Toute la liturgie dont nous avons fait le parallèle avec la liturgie de Saint-Jacques, eh bien, toute la liturgie est elle aussi orientée vers le Père. Ainsi, le collier prépare le collier suivant. Donc, dans 15 jours, nous verrons le collier suivant qui est celui de la Passion. Et on peut déjà comprendre que ce sera, bien sûr, un long chemin de croix, mais qui peut aussi se comprendre comme une offrande au Père, comme une montée vers le Père. Voilà, alors, chers auditeurs, on fait une petite synthèse avant de se quitter. Donc, nous avons suivi une méthode un peu nouvelle qui tient compte que les apôtres appartenaient à une civilisation orale qui composait des récitatifs faits pour être appris par cœur, pour pouvoir être médité dans son cœur. Vous avez vu que nous avons parcouru les perles et ensuite nous les avons enfilées dans un collier en voyant qu'il y a des mots qui se répètent. Par exemple, là, c'était pas capable pour l'instant, mais plus tard, oui. Nous avons vu les mots qui se répètent, le Père, le Père, le Père, le chemin, le chemin, le chemin. Et donc, les premiers chrétiens retenaient par cœur et méditaient dans leur cœur. Il n'avait pas besoin d'une grande bibliothèque de théologie. Parce que Saint Jean, quand il a composé son évangile, aussi grâce au conseil de la très sainte Vierge Marie, hein, puisqu'il a pris Marie chez lui, c'est-à-dire il l'a pris comme mère, comme guide. Saint Jean s'est mis à l'école de la Vierge Marie. Et il a composé son évangile de telle sorte que la méditation est guidée. Est guidée. Il n'y a qu'à suivre la structure et on comprend le sens. Voilà, Jérôme, on est à l'heure.
Merci beaucoup, Françoise.
Oui.
À très bientôt.
À bientôt. À bientôt. Très bientôt.